nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir qui est Jésus. Tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir qui est Jésus. C'est l'ami fidèle et tendre. Ses brebis, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ses exigences, est riche en son amour. Tout le monde doit savoir,
tout le monde doit savoir,
tout le monde doit savoir,
tout le monde doit savoir
qui est Jésus. Tout le monde doit savoir,
tout le monde doit savoir,
tout le monde doit savoir. Qui est Jésus? C'est l'ami fidèle, c'est l'ami fidèle et tendre, le berger de ses brebis, toujours prêt à nous entendre.
J'espère que vous allez bien, vous n'avez pas pris un coup de froid en venant. Alors pour les internautes qui nous regardent de loin chez nous, eh bien il neigeotait ce matin. Voilà, vous êtes peut-être mieux chez vous là où vous êtes. Hein? Mais bon, après, à midi, vous allez manger un bon repas, peut-être un gigot, non? Hein? À l'école biblique, on a un frère qui s'appelle Gigot. Hein? Je lui ai dit, ben, toi tu es vraiment né sous le signe de l'agneau. Hein? Il est content. Voilà, alors d'habitude les repas de... Les repas de famille où on est tous ensemble comme ça, c'est des moments extraordinaires. On est bien, c'est vivifiant. Maintenant, il y a quelquefois des repas qui sont pour différentes circonstances, des fois qui peuvent être tristes. Hein, quand par exemple on se retrouve tous ensemble après un décès, bon, on est tous là, mais vraiment les mines sont graves. ou quelquefois il y a eu une nouvelle qui est arrivée qui a affecté tout le monde. On est tous réunis comme ça et puis on vient d'apprendre que un des couples des enfants vient peut-être à entamer une procédure de divorce. Les petits-enfants sont là, tout le monde est effondré, hébété, et le repas est triste. Hein. C'est un repas difficile. On essaye de meubler la conversation, mais les cœurs n'y sont pas quoi. Hein. Et j'aimerais ce matin parler de ce dernier repas que Jésus a pris avec les apôtres dans la nuit où il a dû être après arrêté et livré, puisque aujourd'hui, même si c'est pas une tradition, si c'est pas un rite obligatoire, mais nous savons que dans le calendrier, aujourd'hui nous sommes ce qu'on appelle le Vendredi Saint. Nous, bien sûr, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus ressuscité 366 jours par an. Hein. Cette année, on a un jour de plus pour glorifier Dieu. Hein. Mais bon, ce sont des repères dans l'année, pourquoi pas, des repères, c'est bien. Hein. Et aujourd'hui, on sait qu'on se rappelle de ce jour où Jésus est mort sur la croix pour nous, mais dans la nuit, la soirée qui a précédé, ils se sont retrouvés avec les disciples, ils ont mangé ensemble, et je pense que l'ambiance, comme on dit, n'était pas une ambiance joyeuse. Déjà, les disciples savaient qu'ils étaient venus avec lui à Jérusalem dans des circonstances qui étaient difficiles. Avant de venir, l'un d'eux, Thomas, avait dit « Allons avec lui et mourons avec lui ». Ils savaient que c'était vraiment très risqué, qu'il y avait vraiment des problèmes. Et pendant toute cette semaine, le conflit avec les responsables religieux n'avait pas cessé de s'amplifier tous les jours. Tous les jours sur la place, Jésus avait eu avec les responsables des discussions vraiment, vraiment musclées, vraiment agressives. Et ils voyaient leurs adversaires qui avaient du pouvoir et qui grinçaient des dents. Donc, quelque part, et voilà que ce soir-là, Jésus leur disait... les avertissait, Jésus était grave. Il a dit, il les a avertis, il leur a dit, il faut que le Fils de l'homme meure. Et là, vraiment, je crois que maintenant, les douze avaient compris que vraiment on allait vers un temps tragique. Et ils étaient inquiets, ils étaient angoissés pour eux-mêmes, pour lui, ils étaient tristes. C'était un temps, je crois que c'était une soirée très difficile. Les propos que Jésus tenait ressemblaient plus à un testament spirituel qu'à quelque chose auquel ils étaient habitués. Et j'aimerais lire d'abord, on va lire pas mal de textes hein, ce matin. On va lire d'abord dans Jean au chapitre 13, hein, un petit passage. Jean 13, à partir du verset 2, vous savez que c'est le passage qui parle de le moment où Jésus leur a lavé les pieds. Et je lis ce morceau, Jean 13, 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, hein, et Pierre lui dit, « Quoi, toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ah, Pierre dit, « Non, 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 alors ça, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Mais si je ne te lave pas, c'est que tu n'as pas de place avec moi. » Alors Simon-Pierre dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Mais Jésus lui dit, « Mais celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur, quoique pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Et après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ?
Bon, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, puisque je le suis. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur, le maître, alors vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et Jésus donne, en disant « je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez comme je vous ai fait », et je ne pense pas qu'il était en train de dire « afin que, obligatoirement, vous laviez les pieds les uns les autres ». Ça, c'est une application qui, dans leur culture, était normale. Mais aujourd'hui, si tout à l'heure, à midi, vous allez manger chez quelqu'un, ne vous attendez pas trop à ce qu'il vous propose de vous laver les pieds avant de passer à table. Hein ? Ok. Parce que dans notre culture, ça serait un geste qui aurait peu de sens, peu d'utilité d'abord. Et c'est pas ce qui est, et c'est pas ce que Jésus voulait dire. Ce que Jésus veut nous laisser, c'est que ce qu'il a dit, c'est-à-dire que celui qui est élevé se comporte comme étant en dessous. Alors après, chacun dans notre civilisation, ça va se réaliser d'une façon ou d'une autre. Essaye de trouver quelque chose qui pour quelqu'un qui, j'allais dire socialement ou d'une certaine façon est en dessous de toi, essaye de le faire toi pour lui, hein, comme te mettant volontairement en dessous, hein, et ça c'est quelque chose qui crée de l'humilité, quelque chose qui montre qu'on veut respecter les autres, hein. Je souligne ça pour dire que Jésus n'a pas enseigné pour donner des codes de ce qu'il faut faire comme si c'était des rites. Hein. Ce que Jésus nous a donné, c'est les principes qui doivent changer notre cœur par la grâce de Dieu pour que la nature de Dieu nous donne de faire ce qui correspond à ce qui est dans le cœur de Dieu, nous donne d'agir les uns envers les autres et envers lui de manière à faire ce que Dieu aime, ce qui est selon sa nature même. C'est important pour la suite parce que nous allons parler un tout petit peu rapidement de ce qu'est la Sainte Cène, hein. Et de savoir ce que Jésus a voulu nous dire lorsqu'il a pris ce pain, qu'il a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Alors, juste après ce moment, au chapitre, enfin toujours dans le même chapitre, verset 21, Jésus fut troublé en son esprit, dit expressément « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant pas de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple, Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce ? » Et Jésus lui répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Cette petite conversation entre eux s'est passée en vitesse, en quelques secondes et un petit peu en aparté. Jésus dit, l'un d'entre vous me livrera. Et ce qui ce qu'il faut relever, c'est que les disciples ne savaient pas de qui Jésus voulait parler. Judas, la vraie nature de Judas était passée inaperçu jusque-là. Personne ne pensait que Judas pouvait être tellement spécial, tellement mauvais qu'il deviendrait un traître. Hein. Jean, c'est le disciple qui était tout contre Jésus. C'est celui qui était peut-être le plus, au sens de l'âme, le plus son ami. Jésus aimait tous les autres, autant. Mais il avait avec Jésus une relation d'amitié. Et on voit qu'il avait auprès de Jésus il avait des entrées spéciales parce qu'il était un ami. Alors c'est pour ça que Pierre lui demande de loin, lui dit, demande-lui qui c'est. Pierre n'aurait pas pu le demander, mais il sait que Jean peut le lui demander. Est-ce que vous êtes intime avec Jésus pour pouvoir lui parler directement comme ça? Pierre lui dit, toi, demande-lui. Alors Jean qui était à côté lui dit, c'est qui? Et Jésus lui a répondu, mais c'est juste entre deux. L'ensemble du groupe n'a pas su à ce moment-là que Judas était un traître. Sinon, vous imaginez les gars avec des tempéraments comme Pierre, Jacques et les autres. Hein, vous imaginez? Ah ben, lui serait tombé dessus à bras raccourcis. Hein. Non, il fallait qu'il sorte. Mais ce que nous voyons aussi, c'est, alors là, on repart dans l'évangile de Marc. Ce que nous voyons, c'est que Marc 14, 17, je vous lis rapidement ça. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Alors ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi ? Je trouve ça extraordinaire. Jésus dit, l'un d'entre vous me livrera. Et chacun s'est dit et a demandé à Seigneur, mais est-ce que c'est moi ? Ils n'avaient aucune confiance en eux-mêmes. Ils étaient complètement... Pourtant, ce sont des disciples, pourtant ce sont des apôtres, pourtant ce sont des gens qui se sont déclarés pour Jésus, pourtant ils ont fait des choix, pourtant ils se sont engagés, pourtant ils ont tout laissé, ils ont tout quitté, ils ont laissé leur outil de travail, ils ont laissé leur famille, ils ont perdu beaucoup de leur réputation, ils ont souffert, ils ont pris des risques, même là où ils sont ce soir, ils sont dans une situation vraiment, vraiment risquée, et avec tout ça, ils ne sont pas sûrs quand même encore d'avoir vraiment fait des choix définitifs pour Jésus. Ils ne sont pas sûrs d'être capables. Et quand Jésus dit, il y a un traître, chacun se dit, mais et si c'était moi ? Vous voyez, c'est étonnant de voir comme ces gens étaient peu lucides sur eux-mêmes. Comment ils étaient encore dans un état peu de maturité. Et je vois que beaucoup de chrétiens sont quelquefois un peu comme ça, à la fois ils veulent marcher, à la fois ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont, ils ne sont pas sûrs de leur vraie décision, ils ne sont pas sûrs de leurs engagements, ils disent mais moi je voudrais bien, mais et si un jour je craque, et si je reviens en arrière, ils ne savent pas où ils en sont. Et alors le plus étonnant c'est que dans le même chapitre, un petit peu plus loin, toujours dans Marc 14, alors Jésus les avertit qu'ils allaient tous s'enfuir, etc. Verset 29, Pierre dit, « Ah, quand tous se seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Jésus lui dit, « Je te le dis, c'est vrai, écoute bien, toi, aujourd'hui, là, dans cette nuit-là qui vient, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Les mêmes qui, une demi-heure avant, n'étaient pas persuadés chacun de ne pas être un traître, maintenant ils étaient persuadés qu'ils avaient l'étoffe des martyrs. C'est beau, hein ? Or, on sait qu'une heure après, ils se sont enfuis. Alors, quel manque de lucidité complète. Quelle incroyable ignorance de soi-même. Qu'allait-il faire ? Qui était-il ? Ils n'en savaient rien du tout. Ils étaient dans un trouble complet. Ils étaient incapables de savoir ce qu'ils feraient, ce qu'ils étaient et ce qu'ils feraient. Samuel posait la question tout à l'heure. Que ferions-nous si nous étions dans une situation difficile vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'Évangile, vis-à-vis des pouvoirs publics. Hein. Ce matin, on a dû braver un petit peu d'humidité, un peu de froid pour venir. Et encore, on est quand même venu, en voiture ou enfin dans des conditions à peu près correctes. Hein. Imaginez si, avec le temps qu'il faisait ce matin, on avait dû simplement, par exemple, venir à pied. Bon, déjà, ça aurait été un peu difficile. Mais imaginons que par-dessus ça, on aurait pu penser qu'il y ait des gens mal intentionnés qui nous attendent vers le portail. Alors, qu'est-ce qu'on ferait ? Moi, je pense que souvent, on est comme les disciples. Hein. À un moment, on est persuadé qu'on franchirait tous les obstacles. Ah, on irait, on aime le Seigneur. Et puis, une demi-heure après, on se dit, mais à moins que je renie, finalement. Et on ne sait pas trop où on en est. Parce que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur nos forces. Si nous ne comptons pas sur la puissance du Saint-Esprit en nous pour nous permettre d'être ce que Dieu veut que nous soyons, pour nous permettre de faire ce qui est l'œuvre de Dieu. Tant que nous ne sommes pas dans cette relation avec Dieu qui nous confère sa force, et tant que nous regardons à nous-mêmes et à nos capacités, alors nous sommes réellement capables du pire. Nous sommes capables du pire. Nous sommes capables de proclamer des choses avec force et de faire le contraire une demi-heure plus tard. Les philosophes antiques disaient « connais-toi toi-même ». Mais quelle solution ils donnaient pour arriver à ce bel adage ? Aujourd'hui, nous sommes devant la nécessité de nous déterminer, de savoir. Dieu met devant nous des choix. Et même si ces choix sont nos choix, même si c'est notre responsabilité, cette responsabilité est la nôtre, mais avec l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer faire mieux que ce que les apôtres auraient fait si nous ne comptons pas davantage sur le Seigneur. Savez-vous quel est dans quel évangile, tout à l'heure là on va prendre le pain et le vin, et je voudrais vraiment que ce soit quelque chose d'un petit peu particulier. Savez-vous dans lequel des évangiles Jésus nous a dit de faire ceci en mémoire de lui ? De prendre le pain et de prendre la coupe. Dans quel évangile Jésus a dit ça? Bon, on va regarder, tiens. Matthieu, hein? Matthieu 26, verset 26. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mais voyez, ici, on voit que Jésus a mangé avec eux, qu'il leur a distribuer le pain, le vin, mais Matthieu ne dit pas « faites ceci en mémoire de moi ». Lui, il n'a pas dit. Bon, ok. On va aller voir dans Marc. Hein? Allez, on retourne dans Marc. Marc 14, 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant « prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et de nouveau, nous voyons que Jésus, ici, raconté par Marc, dans la Sainte Cène, raconté par Marc, Jésus leur a distribué le pain et le vin, mais il n'a pas dit non plus, « faites ceci en mémoire de moi ». Alors, on va aller voir dans Luc. On arrive à Luc 22. Luc 22, 19. Luc 22, 19. Ensuite, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Ah, écoutez bien, faites ceci en mémoire de moi. Ah, Matthieu et Marc ne l'avaient pas dit. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, la leur donnant, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, voyez que Luc, ici, nous nous rapporte les paroles de Jésus qui dit aux disciples de prendre ce pain et de refaire ce geste, cet acte. Faites ceci en mémoire de moi. C'est seulement à propos du pain. Il ne le dit pas pour la coupe. Et nous savons que Jean ne raconte pas du tout ce dernier repas. Donc sur les quatre évangiles, un seul des quatre implique, rappelle que c'est quelque chose qui doit être refait et uniquement à propos du pain. Et ça m'a étonné. Je me suis dit, si aux yeux des évangélistes, si le but de ce geste que Jésus a fait, si son but c'était vraiment le but essentiel, si c'était vraiment qu'on refasse le même geste. Si c'était ça, alors il l'aurait rapporté chacun. Matthieu n'en dit pas mot, Marc non plus, et Luc uniquement à propos du pain. Alors, comprenez-moi bien, heureusement, le Saint-Esprit nous a donné quelque chose qui est formidable, c'est que cette scène a été aussi racontée a posteriori par Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, que tout le monde connaît, et où Paul dit bien clairement, le Seigneur, le dernier soir, prit du pain, il le rompit, il leur donna en disant, faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin, il prit la coupe et dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc on sait que Jésus l'a dit à propos du pain et du vin, et que si nous faisons ce que nous faisons tous les dimanches, eh bien c'est une bonne chose, c'est juste, c'est inspiré par le Saint-Esprit, et c'est ce que nous devons faire. Mais là où je veux vous amener, c'est-à-dire, mais pourquoi Matthieu, Marc, Luc n'ont pas donné au fait qu'on devrait le refaire, pourquoi ils n'y ont pas donné une telle importance? C'est que pour eux, le sens de ce geste que Jésus faisait, ce n'était pas de créer un cérémonial, ce n'était pas de créer un rite, ce n'était pas de créer quelque chose qu'on devrait refaire et refaire et refaire. Pour eux, le fondement de ce que Jésus faisait était dans le sens même de ce que Jésus faisait. Jésus leur montrait, comme Jean en a parlé dans Jean 6, Jésus leur montrait que ce qu'il était en train de faire, ce que Jésus voulait leur montrer, c'est que on ne peut pas, c'est qu'il ne voulait pas que les disciples aient en eux seulement une idée de Jésus, une théorie de Jésus, des pensées de Jésus. Ce que Jésus voulait, c'était leur montrer de façon concrète, pratique, avec un geste, que ce qu'il voulait, c'est entrer lui-même, Jésus, dans le cœur de ses disciples. Et la seule façon de faire entrer quelque chose au-dedans de nous, c'est de le manger ou de le boire. Jésus prend un pain et dit, voilà, vous voyez ce pain c'est moi, eh bien faites-moi rentrer au-dedans de vous, mangez-moi. Le christianisme, c'est pas une doctrine, le christianisme, c'est Jésus dans les chrétiens. Le christianisme, c'est pas une théorie, c'est pas une religion. Le christianisme, c'est la relation que nous avons avec le Fils de Dieu qui rentre au-dedans de nous, avec son sang qui n'est pas sur nous, comme était le sang de l'aspersion dans la loi de Moïse. Jésus n'a jamais dit, il faut que vous soyez sous mon sang. Jésus a dit, il faut que mon sang rentre au-dedans de vous, buvez-moi. Mangez-moi, buvez-moi, je veux être au-dedans de vous. Et c'est sur ça que Jésus insiste. Bien sûr, c'est bien qu'on le refasse, c'est le Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit a attesté que c'est juste que nous fassions, que nous célébrions ça. Mais le célébrer pour le célébrer ou en faire une cérémonie, ça ne nous donnera rien du tout. La vérité sur laquelle Matthieu, Marc, Luc et Jean a insisté pendant un chapitre entier, c'est la réalité de ce que ça représente. Est-ce que Jésus est au-dedans de nous? Est-ce que le sang de Jésus est au-dedans de nous? Voyez, Moïse disait que tout devait être purifié par l'aspersion du sang. Mais Jésus dit, mais ça c'est fini. Ça c'était le sang de l'ancienne alliance. Mais le sang de la nouvelle alliance, il n'est pas aspergé. Le sang de la nouvelle alliance, il rentre au-dedans de vous. Buvez-moi. Buvez-moi. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre force. Nous n'avons pas une philosophie chrétienne. Nous n'avons pas une idée chrétienne. Nous n'avons pas une religion. Nous n'avons pas des doctrines. Nous n'avons pas des théories. Le Fils de Dieu est rentré au-dedans de nous. Il demeure en nous. Et à cause de cela, alors nous demeurons en Dieu. Nous demeurons en lui. Maintenant, il y a un autre sens, j'allais dire, que j'aime bien voir dans ce repas que nous faisons de la Sainte Cène. C'est que je pose la question, qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Bien sûr, c'est refaire ce geste. C'est comme en mémoire de, ça donne l'idée d'un souvenir, un mémorial, comment on appelle ça, un monument aux morts, un monument funéraire, quelque chose qui est vers le passé, quoi. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, il a dit, chaque fois que vous faites ceci, vous le faites jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc Paul nous rappelle que ce n'est pas un monument vers le passé, mais que c'est une balise vers le futur. Hein. Nous ne prenons pas la Sainte-Seine comme une cérémonie devant le monument d'un mort, hein. Mais nous le faisons comme devant la promesse de son retour, hein, parce qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Jésus prend un pain. Ah, j'aurais dû prendre un pain, ça fait. Jésus prend un pain. Il dit, écoutez les gars, écoutez-moi bien. Regardez bien. Il prend le pain, il dit ça, ce pain c'est mon corps, c'est ma vie, ok? Je prends ce pain, je le casse, je le brise pour vous. Maintenant, mangez-le. Et après, il dit, c'est ce que vous ferez en mémoire de moi. J'aimerais poser la question. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit, c'est ce que vous ferez en mémoire de moi? Bien sûr, le sens premier, c'est vous prendrez un pain, vous le romprez et puis vous le mangerez, d'accord? Oui, voilà, ok. Mais on a vu que le sens fondamental de ce que Jésus a fait, ce n'est pas ça. Le sens fondamental, c'est que Jésus a démontré que lui, il est venu pour donner sa vie. Pas pour donner un pain, mais pour donner sa vie. Et c'est là l'appel fondamental de la Sainte-Seine. Jésus dit, c'est ce que vous ferez. C'est-à-dire que vous prendrez votre corps et vous le briserez et vous le donnerez pour Dieu. Vous le donnerez pour le royaume de Dieu. Vous le donnerez pour l'évangile. Vous le donnerez par amour pour vos frères. Comme je donne mon sang, vous ferez la même chose. C'est ce que vous ferez en mémoire de moi. C'est-à-dire que tu pourras donner ta vie. Peut-être pour quelques-uns, ça peut même être physiquement le martyr. Mais même sans le martyr, est-ce que notre vie nous appartient? Est-ce que notre vie est à nous? Lorsque nous nous sommes donnés à Christ, lorsque nous avons accepté que Jésus nous saisisse, lorsque nous avons accepté de devenir des enfants de Dieu, nous avons accepté que notre vie ne nous appartient plus. Notre corps ne nous appartient plus. Notre sang, c'est-à-dire notre vie, notre principe vital ne nous appartient plus. Et je crois que chaque fois que nous faisons la Sainte-Seine, c'est aussi ça que nous sommes censés dire au Seigneur. Hein. Je prends, comme toi Seigneur, tu as pris ce pain, tu l'as brisé, tu l'as donné. Moi je prends ma vie, je la donne. Alors prendre la Sainte-Seine en pensant comme ça, alors c'est compromettant. Ça c'est grave. Est-ce qu'on vient? Parce que moi, j'ai des fois un petit peu peur que des chrétiens viennent prendre le repas du Seigneur comme une... Ils viennent le consommer. C'est-à-dire, ils viennent pour que ça leur confère une force, une bénédiction. D'accord, bon, ok, pourquoi pas, je suis d'accord avec ça. Mais ça continue d'être encore centré sur nous. On vient rendre un culte à Dieu et en réalité, on vient surtout se requinquer. Est-ce que c'est centré sur Dieu? Ça, c'est encore centré sur nous. Est-ce que c'est ça le culte qui est agréable au Seigneur? Le culte qui est agréable au Seigneur. Romains 12, 1 nous le dit. Romains 12, 1. Quel est le culte que Dieu aime? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ça qui sera de votre part un culte qui plaît à Dieu. Nous ne venons pas au culte pour que Dieu nous fasse du bien. Excusez-moi, mais nous ne venons pas au culte pour que Dieu nous fasse du bien. Nous venons au culte pour nous donner au Seigneur. C'est ça le culte qui lui est agréable. J'ai peur quelquefois que quelques chrétiens viennent prendre la Sainte-Seine. Allez, excusez-moi, je vais lâcher un gros mot, mais d'une façon superstitieuse. Ils prennent la Sainte-Seine pour que ça leur fasse du bien. Mais je ne crois pas que ce soit le but. Hein. Moi, j'ai vu des gens être fâchés parce que dans certaines églises, on fait la Sainte Cène toujours à la fin. Et s'ils doivent partir avant la fin, ils disent « mince, je vais rater la Sainte Cène ». Et toute la semaine, ils ne se sentent pas trop bien hein, parce qu'ils n'ont pas pris la Sainte Cène. Alors, ils s'obligent quand même à rester jusqu'au bout. Ils ont déjà le manteau sur le dos quand ils prennent. Ah bon, là, ils ont quand même, ah voilà, là, ils vont être bien. Demain, ils se sentiront bien quand même. Hein. Mais c'est de la superstition. Nous ne venons pas pour ça. Nous venons parce que Jésus règne en nous. Nous voulons que le sang de Jésus coule dans nos veines, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre esprit. Nous voulons nous donner à lui. Je vais vous proposer quelque chose ce matin. Je vous proposais tout à l'heure que quand ce pain va passer, quand tu prends ce petit bout de pain qui est devant toi, regarde-le bien. Dis-toi, est-ce que moi, je vais faire ce que le Seigneur m'a dit de faire, hein? C'est-à-dire, hein, vous ferez ceci en mémoire de moi. Comme lui, il a donné sa vie, est-ce que moi, je veux donner la mienne? Comme lui, il a donné son corps, est-ce que je veux donner le mien? Prends ce petit morceau de pain, tu le prends. Il est tout petit, mais brise-le quand même. Tu dis, voilà, Seigneur, hein, je brise ma vie, je brise mon corps, je te le donne. Je te le donne, je ne veux plus m'appartenir. Je veux t'offrir ce matin un culte raisonnable, un culte qui te sera agréable, un culte où j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je ne veux pas encore être là, Seigneur, pour être comme bien souvent, j'allais dire comme tous les dimanches. Vous voyez, aujourd'hui, hein, c'est un vendredi, donc c'est plus facile. Mais pour que ça me fasse du bien, je veux me donner à toi. Vous savez, c'est quand je dis des choses comme ça, moi, ça m'est pas facile parce que c'est comme si j'entendais une petite voix qui me dit, mais toi, tu leur dis de le faire, mais est-ce que toi, tu l'as fait? Et alors, je suis, j'allais dire, d'un certain côté, je suis embarrassé parce que même si moi, je dis des choses et que ma fonction me les fait dire devant le micro, je suis exactement comme chacun d'entre nous. Nous sommes tous pareils. Ce sont seulement nos fonctions qui nous changent, mais nous sommes tous pareils. Et je dis, Seigneur, hein, je vais le dire parce que je me le dis à moi. Et comme je me le dis à moi, je veux le leur dire aussi. Et nous le disons tous la même chose. Hein. Nous sommes tous insuffisants pour vivre cette vie radicale, cette vie fondamentale, cette vie absolue de l'Évangile. Nous en sommes tous incapables. Mais c'est pour ça que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est parce que la puissance de Dieu rentre au-dedans de nous que nous pouvons prétendre que nous sommes des chrétiens. Vous savez, je pense que Jésus a attesté cette façon de comprendre la Sainte Cène dans un autre passage. Quand un jour, la maman de Jacques et Jean est venue, donc les deux des disciples, hein, elle est venue, alors là, elle me fait délirer. Hein. Elle arrive comme ça, elle pousse des coudes, elle joue des coudes, elle pousse tout le monde. Elle se présente devant Jésus et dit, je voudrais faire une demande. Ben, Jésus dit, oui, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je voudrais que mes deux fistons, là, Jacques et Jean, que quand tu viendras dans ton règne, ils soient à droite et à gauche, les premiers ministres et ministres de l'Intérieur, voilà. Hein. Alors, vous imaginez la tête? Vous imaginez la tête des 10 autres autour, hein? Ah, ils devaient être contents, hein? Alors là, ils devaient, il y en a peut-être qui se sont dit, tu vois, et si jamais lui donne, nous on est repassés. Ça y est, on s'est fait avoir, j'aurais dû demander avant. Et puis ils étaient fâchés. Ah, ils devaient dire, oh là, ces deux-là, c'est incroyable, un orgueil pareil, hein? Bien sûr, c'était facile hein, de décrire ces choses quand on les connaît de l'intérieur, hein? Hein? Mais Jésus dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Et Jésus leur pose cette question, que je crois le Saint-Esprit nous pose ce matin. Jésus dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Alors comme eux, ils n'ont rien compris, comme ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait, boire une coupe, bon, comme ça tout seul, c'est pas, hein, pas tellement hein, dangereux en soi, normalement. Hein. Alors ils ont dit, oui, nous le pouvons. Bien sûr, c'est facile de s'engager quand on ne sait pas dans quoi. Hein. Et Jésus les a regardés et par l'Esprit de Dieu, prophétiquement, il a vu plus loin. Et il a vu que plus tard, oui, quand ils seraient beaucoup changés, effectivement, ils donneraient leur vie pour lui, ils boiraient la coupe. C'est-à-dire que Jésus emploie cette expression de boire la coupe pour dire donner sa vie. Jésus dit, pouvez-vous boire ma coupe? est-ce que vous donnerez votre vie? Tout à l'heure, on va boire la coupe. Qu'est-ce que tu fais? Tu bois juste la coupe? Hop, un petit coup. Mais Jésus dit, est-ce que tu peux boire ma coupe? Est-ce que tu peux boire ma coupe? Celle qui passe, oui, ok. Est-ce que tu peux boire ma coupe? Faites ceci en mémoire de moi. Je donne mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donne ta vie. C'est la seule vie chrétienne réelle, et c'est celle qui permettait à Paul, au milieu de toutes ses difficultés, de dire « toujours joyeux, toujours joyeux », parce que c'était la vie de Christ qui agissait en lui. Nous allons prier. Je voudrais vraiment vous inviter à faire une sorte de bilan. Vous voyez, nous avons vu tout à l'heure que les disciples étaient incapables de savoir qui ils étaient. Ils étaient incapables de connaître quelle serait leur réaction dans un tout petit peu de temps. Ils sont passés par un découragement sur eux-mêmes total, et puis une fausse assurance aussi totale et aussi trompeuse. Saurons-nous nous laisser sonder par l'Esprit de Dieu pour savoir qui nous sommes et ce que nous savons faire? Saurons-nous entendre la voix du Seigneur qui dit « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». On va fermer les yeux un instant. Je voudrais vous appeler simplement à dire « Seigneur, Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais je veux vraiment dire aujourd'hui que, Seigneur, ce que j'ai peut-être dit légèrement ou d'une façon incomplète, je veux te le redire aujourd'hui. Je te donne ma vie. Je veux donner ce que je suis pour ton œuvre, pour toi. Et quand ce pain passera, si vous avez décidé, si vous avez fait ce choix d'être tout entier pour le Seigneur, ce petit bout de pain, prends-le, brise-le encore une fois et dis, Seigneur, c'est mon corps que je donne, c'est ma vie, c'est mon sang que je donne pour toi, par amour pour Dieu. Seigneur, c'est le culte raisonnable que je veux te rendre aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur.